Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nous sommes le 17 novembre. Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. La veille, il a même tweeté à plusieurs reprises ces quelques mots qui se passent de traduction. « I won the election ». Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'interroger de ce qu'il reste de la démocratie en Amérique. Il était près de 18h en Europe quand CNN fait l'annonce tant attendue par les démocrates.
After four long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
Biden vient d'emporter la Pennsylvanie après 4 jours de suspense. Joe Biden a gagné, mais Trump ne s'avoue pas battu pour autant et résiste. Je me demande à quel moment il ne va pas écrire sur son profil Twitter « 46e président des États-Unis d'Amérique ».
Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein ? Ça fait peur.
Aussi, pour y voir plus clair, j'ai pris mon micro-casque et j'ai appelé Nicolas Rollin, le correspondant des Échos à New York. Salut Nicolas.
Bonjour Pierrick.
Ça va ? Ça se passe bien ?
Ça va, très bien.
Je te demande pas le temps qu'il fait à New York, parce que c'est pas trop la question, je me demandais, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait depuis le 3 novembre et depuis le soir de ce qu'on peut appeler sa défaite maintenant ?
Ben alors, c'est assez simple, Pierrick. Il n'a pas fait grand-chose, en fait. Presque tous les jours, l'agenda de la Maison-Blanche reste vide. Aucun événement public à signaler. Alors, tout juste peut-on évoquer une cérémonie d'hommage aux anciens combattants le 11 novembre, une conférence de presse aussi organisée vendredi. Donald Trump semble donc passer son temps à ruminer une revanche et à faire ce qu'il préfère par-dessus tout, tweeter. Il avait été plutôt discret sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi l'élection, mais il s'est rattrapé depuis. Et il collectionne même les tweets désignés par Twitter comme étant faux. Il y dénonce des irrégularités, promet des preuves qui n'arrivent pas et répète inlassablement qu'il a gagné.
Oui, c'est un vrai festival, effectivement, sur Twitter. On voit qu'il s'est lancé quand même dans une véritable guérilla judiciaire contre le résultat de cette élection.
Oui, il a adopté une stratégie vraiment tous azimuts, hein, en choisissant de multiplier les attaques. Ce sont des dizaines de plaintes qui ont été déposées dans quasiment tous les États. Une stratégie remise en cause d'ailleurs par certains observateurs, hein, qui pensent que se concentrer sur quelques États aurait été beaucoup plus efficace. Alors, dans certains cas, ce sont des recours classiques, hein, l'écart étant très serré, le camp Trump demande à nouveau des comptes des voix. Dans d'autres États, comme la Pennsylvanie, c'est beaucoup moins commun. Il s'agit de remettre en cause la validité de certains bulletins arrivés par la poste après le jour de l'élection, ou bien présentant par exemple des défauts de signature. L'équipe de Donald Trump a choisi de prendre un peu n'importe quel motif pour lancer des attaques. On peut citer encore le cas de la Pennsylvanie où ils ont déposé une plainte car les observateurs devaient se trouver à plus de 2 mètres des bulletins lors du dépouillement pour des raisons sanitaires. Arguant donc du fait qu'ils ne pouvaient pas vraiment voir ce qui se passait lors du dépouillement à plus de 2 mètres.
Alors encore, il n'a pas demandé à ce que les bulletins de vote aient des masques, hein, ça peut être surprenant. Pour autant, on en est, selon les comptes de la société de presse, à 290 grands électeurs pour Joe Biden. Il en faut 270 pour gagner, 232 pour Donald Trump. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il a encore des chances de l'emporter ?
Alors, elles sont extrêmement faibles et elles se réduisent de jour en jour. La plupart des cas qui ont déjà été jugés ont désavoué le camp Trump. Hein. Aucune fraude n'a été reconnue pour le moment. Les juges ont ainsi affirmé que les observateurs avaient pu faire leur travail et que le décompte des voix dans la plupart des États s'était fait dans la légalité. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que les États où un nouveau décompte doit être fait dans les jours qui viennent ne pourront pas à eux seuls remettre en cause le résultat final. L'écart de voix est désormais trop important en faveur de Joe Biden. Or, signe de cette tendance, l'un des cabinets d'avocats de Trump a préféré abandonner ses poursuites il y a quelques jours. Trump lui-même a légèrement évolué sur la question. Hein. Son discours vendredi a reconnu la possibilité qu'il y ait une nouvelle administration en janvier. Il a aussi, dans un tweet, parlé de la victoire de Joe Biden avant de revenir sur ses propos et de dire qu'il n'abandonnait pas le combat.
Quel est le calendrier à partir de maintenant ?
Alors, dans les jours qui viennent, de nouvelles audiences sont prévues. Plusieurs cours locales et fédérales doivent se pencher sur les plaintes du camp Trump. Rien n'indique pour l'instant qu'une décision pourrait lui être favorable. Or, il lui en faudrait même plusieurs pour avoir une chance de rattraper son retard. Alors ensuite, les dates de certification des résultats varient d'un État à un autre, mais plusieurs États importants doivent le faire dans les jours qui viennent. Ce sera le cas en Géorgie, par exemple, où un recomptage devrait être ordonné dans la foulée. Ensuite, la date clé, c'est le 8 décembre. La loi électorale américaine impose que tous les litiges doivent être réglés à cette date et tous les résultats doivent donc être certifiés. Le collège électoral se réunira alors dans chaque État le 14 décembre. Les grands électeurs voteront alors pour leurs candidats et les votes seront envoyés au vice-président des États-Unis. Le Congrès se réunira ensuite le 6 janvier pour compter les voix et proclamer les résultats. Et la prise de fonction du nouveau président se fera, elle, à Washington le 20 janvier.
On a vu Donald Trump se promener en petite voiturette de golf. Il a pas mal joué au golf. Qu'est-ce qu'il va faire quand il ne sera plus président ? D'ailleurs, on a une idée.
Alors oui, hormis jouer au golf et continuer à tweeter, il a pas mal de projets. Il devrait d'abord continuer à jouer un rôle central dans la politique américaine, notamment au sein du Parti républicain, sur lequel il a lancé une véritable OPA. Difficile d'imaginer désormais qu'une décision importante pour le parti puisse lui échapper. Il a même déjà évoqué l'idée de se représenter en 2024. Il aura alors 78 ans. Dans ce cas, il pourrait se lancer dans la campagne dès son départ de la Maison-Blanche. Et enfin, il a toujours caressé l'idée, le rêve de créer Trump TV, une grande chaîne de télévision conservatrice qui serait capable de rivaliser avec Fox News. Un fonds d'investissement proche du Parti républicain serait même en train d'étudier en ce moment le rachat de Newsmax TV, une chaîne d'information dont un peu confidentielle, mais dont l'audience a explosé depuis l'élection et qui refuse toujours de reconnaître la défaite de Donald Trump. Donc ça pourrait être vraiment une rampe de lancement pour la future Donald Trump TV.
Et on n'en a sans doute pas fini avec le trumpisme. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt. Et bon courage, hein, prends soin de toi et de tes proches. Salut.
Merci Pierrick, à bientôt.
En parallèle que les chiffres ne laissent plus de place au doute, plus les jours passent, mais Donald Trump, lui, reste obsédé par sa vérité.
Oui, sa vérité qu'il a répétée il y a quelques instants sur Twitter, où il écrit, en minuscule cette fois, « J'ai gagné l'élection ». La nuit dernière, un peu avant minuit, il avait écrit la même phrase en majuscule. Apparemment, il s'est un peu calmé pendant la nuit.
290 grands électeurs pour Joe Biden, autant que Trump en avait emporté il y a 4 ans. Les accusations de triche répétées par l'actuel locataire de la Maison-Blanche renvoient l'image d'une Amérique en crise d'un point de vue institutionnel, de la part d'un pays qui aime se présenter comme le chantre de la démocratie mondiale.
Les règles du jeu, vous les connaissez. Il n'y a pas de tricherie. Si vous trichez, disqualification pour les deux. Et c'est valable pour tous.
C'est bon, on a compris. C'est un bébé, il ne va pas tricher.
Il y a quelques jours, j'ai été notifié sur Twitter par le groupe de réflexion Terra Nova. Il venait de publier une note sur les élections aux États-Unis. Le titre est accrocheur. Les États-Unis, pas vraiment une démocratie, de moins en moins une république. J'ai eu envie d'en parler avec la signataire de cette tribune. Bonjour Hélène Landemort.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences titularisée en sciences politiques à l'université de Yale, spécialiste de la théorie démocratique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le thème, on va y revenir. Mais d'abord, comment est-ce que vous avez vécu le D-Day aux États-Unis ce 3 novembre et les heures qui ont suivi ?
Eh bien écoutez, je l'ai vécu à Paris, en France, donc à bonne distance. Je dois dire que ce cirque des élections présidentielles américaines, j'avais besoin de mettre un océan entre elle et moi. Je me suis couchée très inquiète du décalage entre les prédictions par les sondeurs et la réalité des résultats à ce moment-là. En fait, j'ai même cru qu'on allait revivre les résultats d'il y a 4 ans, en 2016. Donc voilà, c'était un peu surréaliste. Et donc le lendemain, quand les votes démocrates ont commencé à s'accumuler et que tout doucement la tendance s'est inversée, ça a été un soulagement. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment une année très particulière 2020. Hein. C'est une année d'angoisse et d'incertitude. Et je trouve que cette élection l'a bien reflété.
Hein. 15 jours quasiment après le vote, Donald Trump n'a toujours pas accepté sa défaite. Il n'a pas reconnu cette défaite. Est-ce que vous êtes surprise par ce comportement de Donald Trump ?
On ne devrait pas. Je ne devrais pas être surprise. D'une certaine manière, je ne le suis pas. D'une certaine manière, ça fait des mois qu'il prépare le terrain. Ça fait des mois qu'il discrédite à l'avance le vote par correspondance. Il a dit, lors du premier débat présidentiel, qu'il a refusé de s'engager à un transfert de pouvoir pacifique en cas de victoire de Biden. Il a fait une invitation à peine voilée aux milices suprémacistes blancs, qui s'appellent les Proud Boys, de se tenir prêtes, etc. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de surprise à voir. Il a juste fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire qu'il contesterait jusqu'au bout et qu'il essaierait de semer le doute. Et donc, non, je ne devrais pas être surprise. Et pourtant, je pense que comme beaucoup de gens, en fait, j'en reviens pas. Il y a une sorte de paralysie. On est tous un peu tétanisés par l'audace et le culot de ce type, en quelque sorte. Et le fait, peut-être encore plus surprenant, qu'autour de lui, l'establishment républicain laisse faire, accepte de voir toutes les normes démocratiques violées, qu'on en arrive à quelque chose qui ressemble presque à un putsch soft. C'est absolument incroyable. Donc, c'est difficile à croire, en un sens, même s'il n'y a pas vraiment lieu d'être surpris. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça fait depuis qu'il est entré dans la course en 2016, que c'est comme ça que ça se passe. On se dit, c'est pas possible, les gens vont pas voter pour lui, les adultes dans le Parti républicain vont finir par lui mettre un peu le holà, etc. Et en fait, c'est jamais ce qui se passe, quoi. Donc, on sait pas où ça peut s'arrêter avec lui. C'est ça qui est très, très, très inquiétant sur l'état de la démocratie américaine, je dirais. Et je pense foncièrement que Trump a un tempérament autoritaire de tyran. Donc, on n'est pas trop alarmiste quand on dit ça, je pense. Je pense que heureusement, il y a des choses qui tiennent dans la démocratie américaine. Il y a les médias, notamment. Fox News, moi, à mon grand soulagement, n'a pas joué le jeu de Trump, si vous voulez, n'a pas prétendu qu'il avait gagné, par exemple. Et on peut penser que l'armée n'a pas lieu ou n'a pas de raison d'intervenir. Donc, tout ça, c'est très rassurant, mais c'est quand même incroyable qu'on soit arrivé si loin dans le déni d'un résultat quand même assez net d'une victoire de Biden.
Vous en avez parlé avec vos collègues de Yale ?
J'ai pas eu trop l'occasion, non, pas encore, non. Mais je veux dire, mes collègues de Yale, je les aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils sont, notamment les quantitativistes qui sont censément très doués pour les prédictions. En 2016, ça a été la débandade complète, la débâcle. Donc, cette année, c'est la même chose, je veux dire. Enfin, en tout cas, la soirée du 3 novembre en tant que telle, ça ne se passe jamais comme prévu, en quelque sorte. Donc, ce personnage de Trump, c'est quelque chose de vraiment nouveau, de disruptif. Une hypothèse que je pense, j'avais vaguement entendu certains collègues faire, c'est qu'effectivement, les sondages, ça ne marche pas si les gens mentent et même font une sorte d'insurrection comme ça, soit en cachant leurs intentions réelles, soit en essayant justement de faire rater les prédictions, quoi.
Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States.
En l'an 2000, Al Gore avait aussi contesté la victoire de Bush. Il avait mis plusieurs semaines, hein, jusqu'au 13 décembre, avant de reconnaître sa défaite. Ça n'avait pas fait autant de bruit médiatique.
Oui, mais à l'époque, les écarts étaient quand même beaucoup plus serrés. Au fond, Gore avait gagné le vote populaire, mais la question, c'est de savoir s'il avait la majorité des grands électeurs et ça dépendait du vote en Floride. Et la Cour suprême avait jugé contre un recomptage des voix. Et donc voilà, ça s'était terminé quand même assez clairement sur une décision pour Bush. Et il y avait des écarts faibles. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Biden a gagné dans le même ordre de grandeur que la victoire de Trump la dernière fois. Donc, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment lieu de contester et d'attendre des semaines avant de reconnaître la défaite.
La semaine dernière, j'évoquais les moqueries de l'ayatollah Ali Khamenei sur Twitter sur les élections américaines et la démocratie aux États-Unis. D'autres régimes autoritaires se sont gossés. Ça fait des ordres ?
Oui, ça fait des ordres. Si quelqu'un se comportait comme Trump dans un autre pays, disons la Turquie ou l'Iran, on parlerait de coup. Alors après, ça devient très difficile pour les Américains de faire la leçon au monde entier sur leur démocratie si avancée. Et pourtant, aux États-Unis, j'ai l'impression que le ton, c'est de faire comme si, au fond, Trump était juste un mufle, un politicien mal élevé, etc. Je pense que c'est beaucoup plus grave et qu'il y a quand même quelque chose de malade ou de très corrompu dans la démocratie américaine à ce stade.
Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen.
C'était le 4 novembre. Joe Biden déclarait
Personne ne va nous enlever notre démocratie, ni maintenant, ni jamais. L'Amérique a mené trop de batailles, elle a trop enduré pour laisser cela se produire. Hélène Landemort, de votre côté, vous dites que le pays n'a jamais été une démocratie au plein sens du terme, et la réalité est de plus en plus en décalage avec les mots. Pourquoi ?
Eh bien, j'enseigne donc la philosophie politique et donc je reviens souvent aux débats fondateurs, c'est-à-dire les débats entre les fédéralistes et les antifédéralistes. Et en fait, les fédéralistes qui ont donc gagné le combat d'idées ne voulaient pas d'une démocratie. Pour eux, c'était le pouvoir par le peuple, c'était hors de question, c'était dangereux, c'était la règle de la foule haineuse, tyrannique, etc. Donc eux, ils ont construit ce qu'ils appelaient une république qui était fondée sur la séparation des pouvoirs, les freins et contrepoids, et puis surtout la représentation par une élite socio-économique choisie par l'élection, mais enfin, au fond, c'était quand même censé être un groupe d'aristocrates naturels, hein, si vous voulez. Donc, c'était pas une démocratie au sens plein du terme. C'est seulement plus tard, vers le milieu du 19e siècle, qu'on en est venu à appeler ce système une démocratie, mais je pense que c'est surtout par rapport en fait à ce que Tocqueville caractérisait comme l'égalité des conditions aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y avait une société foncièrement égalitaire, notamment en comparaison avec les sociétés européenne, encore très très stratifiée, caractérisée par des différences de statut, etc. Et donc voilà, le mot démocratie s'est un peu galvaudé au fil des siècles, malheureusement. Et donc je pense que si on est vraiment honnête, qu'on regarde la structure de la Constitution américaine et même qu'on regarde qui vraiment a le pouvoir aux États-Unis, on se rend compte que c'est pas une démocratie. Une démocratie, pour moi, ça demande au minimum que les politiques publiques et les lois soient en rapport avec ce que les majorités veulent. Or, d'après là encore ce qu'observent des collègues en sciences politiques, c'est pas ce qu'on a depuis au moins les années 80. On mesure tout ça que depuis récemment, mais Martin Guilens et Benjamin Page, par exemple, j'aime beaucoup leur travail. Ils ont montré qu'en gros, entre les années 80 et les années 2000, et vraisemblablement après, il n'y a pas, si vous voulez, d'influence causale des majorités américaines sur les politiques publiques et les lois, une fois qu'on a pris en compte les préférences des 10% les plus riches, donc les groupes économiques, les représentants de lobbies puissants, etc. Ça veut dire qu'en fait, quand les gens obtiennent ce qu'ils veulent aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont la chance, en fait, que leurs préférences coïncident avec les préférences des plus riches. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et donc oui, je considère que les États-Unis ne sont pas une démocratie à l'heure actuelle.
Donald Trump se faisait pourtant le héros ou la voix, justement, de ceux qui ne faisaient pas partie des 10% des plus riches.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est là que, d'une certaine manière, le contre-temps populiste qu'il représente, c'est une rébellion des masses, d'une certaine manière, ou en tout cas d'une certaine partie des masses. Mais je ne suis pas sûre que ça veut dire pour autant que la démocratie marche à merveille, si vous voulez. Il y a dans le système des moments qui permettent aux gens d'exprimer leur désaccord ou leur frustration, mais il n'y a pas vraiment de design qui leur permette d'obtenir ce qu'elles veulent, au fond. Donc, du coup, on oscille entre la plutocratie, disons, et le populisme. Ce n'est pas du tout viable à long terme, je pense. Il faudrait vraiment repenser les fondamentaux de ce système.
Les États-Unis véhiculent pourtant l'image d'un pays où règne la liberté, the land of free, comme on l'entend dans son hymne national, chanté ici par la jeune Jackie Evancho. C'était lors de l'investiture de Donald Trump en 2016. C'est un État qui est souvent décrit comme le pays démocratique par excellence.
Oui, il y a deux choses. Il y a le libéralisme et il y a la démocratie. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une plutocratie libérale, si vous voulez. Les gens ont beaucoup de liberté d'expression, d'association, la liberté de pratiquer leur religion, etc. Tout ça, c'est très bien. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un pays qui, là encore, répond aux attentes des majorités, qui se soucie du bien commun, etc. Et puis par ailleurs, ce qui est quand même vrai, c'est que la société américaine, comme je le disais, moi je fais une distinction entre la société et les institutions politiques. La société américaine est très égalitaire, très démocratique, dans la manière dont les gens, en fait, se rapportent les uns aux autres, si vous voulez. C'est d'ailleurs ce qui avait frappé Tocqueville au XIXe siècle, là encore. Il parlait de l'égalité des conditions. Et il attribuait ça à trois choses. Le type d'immigration, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, aux États-Unis, ce n'est pas les puissants et les riches et les gens avec des titres qui sont arrivés, c'est les opprimés et les faibles, enfin les gens qui n'avaient rien. Donc du coup, il n'y avait pas de différence de statut au départ. Et en fait, la seule distinction qui reste une fois qu'on met les pieds aux États-Unis dans ces grandes vagues d'immigration initiales, c'est l'argent. Il n'y a pas de titre, de couleur du sang, de terre, etc. Et deuxièmement, l'argent se gagne chèrement. C'est le deuxième facteur pour Tocqueville. C'est-à-dire que les États-Unis, il les décrit comme un pays rude, qui ne récompense pas l'oisiveté. Il n'y a pas de place pour les aristocrates aux États-Unis. Enfin, à l'époque. Et enfin, la troisième chose qu'il voyait comme la cause de cette égalisation des conditions, de cette grande égalité des conditions, c'était le droit. Contrairement à l'Europe, il n'y avait pas ce droit de primogéniture, là, comme on dit. Il y avait un partage égal entre les héritiers mâles et pas donc de possibilité de créer une dynastie comme ça autour d'un aîné. Et ça contribuait à la dispersion de la fortune sur quelques générations seulement. Alors évidemment, il ignorait complètement le... Enfin, il ignorait, il ne traitait pas tout à fait en même temps la question de l'esclavage dans le Sud et la question des Indiens d'Amérique, qui, ces catégories-là étant par définition exclues de ce mouvement d'égalisation de la société. Et je pense que pour Tocqueville, cette force sociétale profonde, c'était la seule chose qui comptait pour lui. Il croyait vraiment que ça déterminait le caractère d'un régime politique. Il ne croyait pas, en fait, aux prédictions et aux calculs des fondateurs comme Madison, qui avait dit on va créer une constitution mixte avec un principe monarchique, un principe démocratique et un principe aristocratique qui se contrebalance, etc. Lui, Tocqueville, il pensait que ça ne voulait rien dire, le régime mixte, et qu'au final, il y avait toujours un seul principe qui finissait par l'emporter. Et dans le cas américain, il pensait que c'était le principe démocratique. Il pensait que c'était tellement puissant, au final, ce désir d'égalité, qu'il prédisait pour les États-Unis comme pour l'Europe l'avènement d'une tyrannie de la majorité écrasant tout sur son passage, un espèce de despotisme soft, etc. Mais moi, je pense qu'il s'est trompé. Et aujourd'hui, les États-Unis, en fait, combinent une société donc démocratique, égalitaire, encore bien vivante, au moins dans les têtes, je pense, mais très mal en point, parce que de fait, il y a des inégalités économiques qui viennent saper cette égalité sociale. Et ça combine donc cette société égalitaire et un régime qui est devenu très plutocratique et qui, là encore, ça renforce les inégalités économiques et ça va finir par altérer les rapports entre individus, je pense. Enfin, ça, c'est mon souci, en tout cas.
L'immense vague rouge déferle sur Washington. Ils sont des milliers à marcher pour, crie-t-il. Make America Great Again, le slogan cher à leur chef.
We love Trump! We love Trump!
Oui, on voit hein, effectivement que la notion démocratique est très imprégnée malgré tout au sein de la population. On le voit avec ces manifestations pro-Trump qui n'ont pas du tout dégénéré. Il n'y a pas eu de heurts comme on a pu le craindre à un moment. En revanche, vous, ce qui vous pose question, c'est cette démocratie au point de vue des institutions. Et on a aujourd'hui un accusé tout trouvé qui est le mode, le système électoral aux États-Unis avec les grands électeurs.
Oh, il n'y a pas que ça, malheureusement, mais c'est vrai que le système des grands électeurs, c'est un des problèmes. C'est d'ailleurs quelque chose que la majorité des Américains rejette depuis les années 1940. Donc, ça fait 80 ans qu'ils n'en veulent plus et vous voyez bien que le système ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Donc, oui, je pense que ça fait partie du problème. Mais ce n'est pas la seule chose. Là. Il y a aussi toutes ces autres institutions contre-majoritaires qui, en fait, à mon avis, paralysent beaucoup le système et qui finissent par donner le pouvoir aux minorités puissantes.
Justement, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le système démocratique américain fonctionne mal ou ne fonctionne pas?
Je pense que c'est l'accumulation de toutes ces paralysies qui remontent au XVIIIe siècle et qu'il aurait fallu remédier en faisant des amendements constitutionnels ou même carrément un moment de réécriture de la Constitution. Je pense que ça aurait aidé. Par exemple, je pense que la Cour suprême, maintenant, c'est devenu un vrai problème. Elle est très politisée. Son rôle, c'est d'être une espèce d'instance impartiale. Or, on voit que maintenant, elle est utilisée par l'exécutif pour, en fait, renforcer son pouvoir. Donc, on ne sait pas ce qui se serait passé si les résultats de l'élection n'avaient pas été aussi clairs cette année. Si on avait dû faire un replay de 2000 et que la Cour suprême avait fini en arbitre, moi, je pense très vraisemblable qu'ils auraient rendu une décision en faveur de Trump, maintenant qu'il y a 6 juges républicains. Donc, voilà, il y a de vrais problèmes dans la Constitution américaine et la pratique du filibuster, le Sénat qui surreprésente les petits États, tout ça, ça crée des points de veto à tous les étages et qui empêche le système de s'adapter, de produire de la bonne gouvernance et de répondre aux besoins des Américains.
Une précision sur le système de la flibuste ou filibuster en anglais, qui est une technique d'obstruction parlementaire pour empêcher ou retarder une nomination ou l'adoption d'une loi, un risque dont devra tenir compte Joe Biden lorsqu'il accédera à la Maison-Blanche. Malgré tout, Hélène Landemort, ces garde-fous sont aussi présentés comme des sécurités si la démocratie américaine devait être en danger en cas d'accession au pouvoir d'un apprenti dictateur.
Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, la paralysie institutionnelle protège. C'est vrai que la séparation des pouvoirs protège, etc. Mais en même temps, je pense que c'est un peu la paralysie du système qui cause l'avènement, enfin, ou l'arrivée d'un dictateur potentiel comme Trump, si vous voulez. Si ça marchait mieux, on n'aurait pas cette tentation populiste, voire autoritaire. Donc, ça va dans les deux sens, si vous voulez. Ça protège et en même temps, ça cause des problèmes. Je pense qu'introduire plus de souplesse et de réactivité et de démocraticité, comme c'est un concept que j'ai forgé pour justement faire référence à cette qualité d'institution d'être démocratique ou pas, eh bien, on s'épargnerait aussi les dangers, si vous voulez.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, les États-Unis élisent leur président au suffrage universel direct? Et est-ce que ce serait la panacée, hein, ce système étant parfois critiqué en France?
Oui, je pense qu'ils vont y venir, et pas tout de suite. Je ne vois pas de débat tellement dans les médias à ce sujet. Enfin, c'est une Arlésienne qui revient régulièrement, mais je pense qu'éventuellement, ils vont finir par abolir les grands électeurs. Mais là encore, moi, ça me paraît être un tout petit bout du problème. Il y aurait beaucoup de choses à changer, et à commencer par le caractère beaucoup trop présidentiel en fait, du régime, à mon avis, qui favorise le culte de la personnalité. C'est le problème de tous les régimes présidentiels, et c'est d'ailleurs le cas en France aussi. Je pense qu'il faudrait recentrer tout ça sur le pouvoir plus authentiquement démocratique, à mon sens, qui est le pouvoir législatif. Donc, redonner du pouvoir au Congrès aux États-Unis est très paralysé, très polarisé. Enfin, il y a peu de choses qui en sortent, en fait. Donc, si vous voulez, le collège électoral, ce n'est pas le seul problème.
Pour vous, l'une des solutions, ce serait déjà de limiter le poids de l'argent dans les élections?
Oui, ça, je pense que tous les observateurs sont d'accord. Il y a une place trop grande donnée à l'argent. Là encore, mes collègues en sciences politiques mesurent, si vous voulez, que les députés passent beaucoup plus de temps avec les gens qui contribuent à leur campagne qu'avec les autres. Enfin, ça encore, ça contribue à l'esprit plutocratique de ces institutions. C'est très problématique. Et je ne sais pas comment on revient en arrière après la décision de la Cour suprême de 2010, Citizens United, qui a en gros décidé que l'argent, c'était une forme de liberté d'expression qu'il fallait faciliter à tout prix. Et donc, il n'y a plus de limite au rôle de l'argent en politique. Aux États-Unis, c'est très problématique.
Dans la note publiée par Terra Nova, vous vous inquiétez d'un scénario où Trump refuserait de s'engager à un transfert pacifique du pouvoir. Alors, on n'est pas encore au bout de l'histoire, mais vous ajoutez, dans un pays où l'on compte 393 millions d'armes à feu, vous y allez fort?
Oui, j'y allais fort. J'étais inquiète juste avant. Bon, au fond, je pense que les majorités américaines sont pacifiques, comme pratiquement dans tous les pays d'ailleurs. Comme le disait Machiavel, le peuple ne veut surtout qu'une chose, c'est qu'on lui fiche la paix. Il ne veut ne pas être opprimé. Donc, il faut vraiment beaucoup d'injustices en série pour que les gens se rebellent. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, contrairement à la France par exemple, une petite minorité d'excités peut faire énormément de dégâts, parce qu'il y a énormément d'armes à feu en circulation. Donc, si le vote avait été plus serré, si, par exemple, Fox News n'avait pas joué le jeu et avait conforté Trump dans son délire, je pense qu'honnêtement, les choses auraient pu déraper au moins localement. Et après, on ne sait pas jusqu'où ça va, parce qu'il faut commencer à faire venir l'armée, etc. Enfin, je ne suis pas sûre que c'était si alarmiste de penser ça, en tout cas. Même si pour l'instant, ça se passe quand même pas mal.
Ouais, ça a été publié, on va le préciser, avant le jour de l'élection, effectivement. Un dernier mot, votre recherche porte sur l'idée d'intelligence collective comme argument pour la démocratie. Vous venez de publier un ouvrage en anglais, « Open Democracy, Reinventing Popular Rule for the 21st Century ». Désolé pour mon accent. C'est quoi une démocratie ouverte ?
Alors, la démocratie ouverte, eh bien, c'est en gros l'idée d'un système qui n'est pas démophobe, qui n'a pas peur du peuple dans son existence collective, contrairement à la Constitution américaine, qui accepte donc le référendum et la participation citoyenne de masse, et qui est aussi beaucoup moins élitiste dans sa conception de la représentation démocratique. C'est-à-dire que ça passe par des formes de représentation, par le tirage au sort notamment, qui permettent en fait à toutes sortes de profils d'accéder au centre du pouvoir et, par exemple, d'avoir une influence réelle sur la formulation de la loi. Donc moi, je vois la démocratie ouverte comme un modèle tout fini, tout prêt à l'emploi, si vous voulez, mais c'est plutôt un ensemble de principes institutionnels. Donc il y a d'abord les droits de participation qui incluent notamment l'initiative citoyenne, le droit d'abrogation, etc., le RIC potentiellement. La délibération, parce que c'est important d'échanger des arguments et de produire des raisons pour les lois qui vont nous gouverner. Le principe de majorité, ça va paraître évident, mais comme je vous le disais, aux États-Unis, il n'est pas du tout vérifié. La représentation démocratique en un sens moins élitiste, donc en partie par le tirage au sort, et la transparence. Donc l'idée, c'est en fait de permettre aux gens ordinaires d'avoir accès aux lieux de pouvoir où se décident des lois et des politiques publiques qui vont les affecter. Et une institution centrale de cette démocratie ouverte telle que j'envisage, c'est ce que j'appelle le mini-public ouvert, donc un corps de plusieurs centaines de citoyens tirés au sort, connectés au reste du pays par toutes sortes de moyens, et qui auraient donc des fonctions potentiellement législatives ou en tout cas au moins des fonctions de détermination d'un agenda ou d'une vision commune pour le pays. Et ça paraît peut-être utopique, utopique, mais en fait, il y a déjà beaucoup d'expériences de pratiquer autour du monde. Il y en a eu en Islande, au moment de la réécriture de leur constitution, en Irlande, en 2012 et 2016, quand eux-mêmes ont fait des amendements constitutionnels qui ont été suivis ensuite par des référendums sur la base de recommandations d'assemblées tirées au sort. La Belgique, où il y a un conseil de citoyens tiré au sort qui donne l'agenda au Parlement local dans la partie germanophone. Et enfin, la France. La France est un lieu d'expérimentation très intéressant. Il y a eu bien sûr le grand débat, mais plus récemment, la Convention citoyenne, qui pour moi reste un magnifique exemple d'instance donc représentative démocratique, qui dans mon modèle de démocratie ouverte serait institutionnalisée et dotée de pouvoirs législatifs permanents, si vous voulez. Donc c'est en gros la vision que j'ai, que je propose d'une démocratie ouverte.
Parce que je suis, resterai un mauvais joueur. Toujours vainqueur, jamais loser. Mauvais joueur, si jamais je perds, c'est le calvaire.
Merci Hélène Landemort, maîtresse de conférences titularisée en sciences politiques à l'université de Yale. Je vous invite à lire son article passionnant sur le site Terra Nova. Merci aussi à Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.